Imagine retiring, stopping work, but keep earning tax-free. With Aware Super's retirement income account, you can choose how much you're paid each month and when you get paid. Visit aware.com.au/retirement to find your retirement rhythm. Retirement income and investment earnings aren't guaranteed. Payments cease when account balance is depleted. Consider if right for you and read the PDS and TMD on their website. Issued by Aware Super Proprietary Limited, trustee of Aware Super.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
On fait un bond de 197 ans dans l'histoire, le 2 mai 1829. Le capitaine Charles Fremantle hissait le drapeau britannique sur la côte ouest de l'Australie, un territoire alors habité depuis au moins 47 000 ans par les peuples aborigènes. Poussée par la crainte d'une colonisation française, la Grande-Bretagne revendiquait ce qui deviendra le Western Australia. D'abord colonie libre, le territoire connaîtra des débuts difficiles avant de devenir une colonie pénitentiaire, puis de rejoindre le Commonwealth d'Australie le 1er janvier 1901. Rétrospective signée Iléana Guillochon.
L'histoire d'aujourd'hui nous ramène un peu loin en arrière, très loin même. Nous sommes le 2 mai 1829. Ce jour-là, un capitaine britannique revendique un territoire au nom de la couronne britannique. Un territoire immense, convoité, qui deviendra plus tard le Western Australia, le plus grand état d'Australie. À l'horizon, un navire se dessine. À son bord, le navigateur néerlandais Dirk Hartog. En accostant sur ces rivages encore inconnus des Européens, il devient le premier à fouler cette côte ouest. Pendant plus de deux siècles, des navigateurs néerlandais, anglais et français l'explorent et la cartographient. À ce moment-là, aucune colonie européenne n'y est encore établie. La région est jugée inhospitalière et offre, selon eux, peu de perspectives économiques. De l'autre côté, la côte Est a déjà été revendiquée en 1770 par le capitaine britannique James Cook. Mais bien avant tout ça, depuis au moins 47 000 ans, les peuples aborigènes vivent dans le sud-ouest de l'Australie et avant l'arrivée des Européens, entre 6 000 et 10 000 Noongars occupaient déjà la région. Face à l'intensification des explorations françaises, une rumeur se répand, la France pourrait bien revendiquer ce territoire et y établir une colonie. La Grande-Bretagne décide alors d'agir, et vite. Une petite aparté, mais si vous avez déjà voyagé en Australie occidentale, vous avez peut-être été surpris par le nombre de noms français que l'on y trouve. Dans la France napoléonienne, une grande expédition est lancée sous la direction du cartographe Nicolas Baudin. Elle s'inscrit dans une série d'explorations qui marqueront durablement les côtes australiennes. On y recense aujourd'hui près de 260 toponymes d'origine française, de François Perron au Cap d'Entrecasteaux, en passant par Géographe, La Pérouse, Fraissinet, Cap-le-Grand ou encore Espérance, pour n'en citer que quelques-uns. Dès 1826, un poste militaire est établi à King George Sound, aujourd'hui Albanie. Dépêché pour explorer la région de la Swan River et identifier un site d'établissement, le capitaine James Stirling arrive sur l'île de Rottnest avec le botaniste colonial Charles Fraser. Satisfait du site, les rapports sont élogieux. Sol riche, végétation luxuriante, le potentiel agricole est prometteur. Mais les autorités ne sont pas convaincues et rejettent la proposition. En cause, le coût de la création de cette nouvelle colonie. Mais Stirling ne se décourage pas et nourrit toujours l'ambition de gouverner cette nouvelle colonie. Selon lui, une solution pourrait fonctionner. Les coûts pour le gouvernement pourraient être réduits si la Swan River devenait une colonie libre financée par des capitaux privés. La presse s'en mêle et les publications sur ces projets d'établissement lointains suscitent un fort intérêt, notamment chez des Britanniques qui veulent recommencer une nouvelle vie, loin de la réputation de colonie pénitentiaire de la Nouvelle-Galles du Sud. Et dans le même temps, des investisseurs sont eux aussi attirés par la perspective de nouvelles terres. Le gouvernement est alors submergé de lettres de candidats à l'immigration et finit par accepter la création d'une colonie à la Swan River, à condition qu'elle bénéficie d'un financement public minimal. Ce qui signifie qu'aucun forçat ne sera envoyé pour fournir de la main-d'œuvre. On craint toujours une éventuelle installation française sur les meilleurs emplacements, les instructions sont données, elles ordonnent d'envoyer un navire vers la côte de la Nouvelle-Hollande et d'en prendre possession officielle. Ça se passe donc le 2 mai 1829, le capitaine Charles Fremantle, commandant du Challenger, hisse le drapeau britannique et revendique la côte ouest de l'Australie au nom du roi. Cette action ouvre la voie à l'arrivée de Stirling et à celle des premiers colons quelques semaines plus tard. C'est la naissance de la colonie Swan River, un établissement libre sans condamnés. Elle débute avec la lecture d'une proclamation officielle sur Garden Island désignant James Stirling comme lieutenant-gouverneur. Cependant, les sols côtiers ne sont pas adaptés à l'agriculture. Stirling décide alors de fonder deux villes, un port commercial à Fremantle, à l'embouchure de la Swan River, et une capitale qu'il nomme Perth, à 19 km en amont. La première pierre de Perth est posée, mais très vite, les premiers problèmes apparaissent. L'intérêt intense pour la colonie entraîne un afflux de candidats à l'immigration, et certains ne sont pas préparés aux difficultés. La vie y est précaire, et Stirling a clairement vendu le potentiel de la terre comme bien plus important qu'il ne l'était réellement.
Immediately the protest came and the colonial secretary's office files, the early files from late 1829 and early 1830 are full of letters from the settlers complaining about being led up the garden path essentially. And so there was immense disillusionment and the letters started to go back to England and were printed in regional and local newspapers.
Les mauvaises récoltes obligent à importer des provisions depuis Sydney et la Tasmanie. L'économie manque de liquidité car le système d'attribution des terres encourage les colons à apporter des biens plutôt que de l'argent. Et si au départ les relations entre les colons et le peuple Noongar sont cordiales, le mépris des Européens pour leur territoire et les tensions liées à l'accès aux ressources entraînent rapidement une dégradation des liens, basculant progressivement en conflit armé. On se souvient du massacre de Pinjarra, le gouverneur du Western Australia présentera ses excuses officielles à l'occasion du 191e anniversaire.
I come with my heart, my court, to say sorry. I come here today to say sorry for the dreadful wrongs perpetrated by the first governor of Western Australia, Sir James Stirling.
En 1838, Stirling démissionne de son poste de gouverneur. La colonie est devenue plus autonome, mais elle souffre toujours d'un manque de capitaux et de main-d'œuvre pour développer ses infrastructures publiques. Une solution est alors trouvée, importer des condamnés. L'Australie occidentale devient officiellement une colonie pénitentiaire en mai 1849, soit 20 ans après le hissage du drapeau britannique sur ses terres. Cet apport de main-d'œuvre permettra la construction de routes et de nouveaux bâtiments. Finalement, elle se développe rapidement à la fin du 19e siècle, en particulier avec la découverte de l'or dans la région. Et le WA devient un État lors de la création du Commonwealth d'Australie le 1er janvier 1901.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.